Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
N'est pas fou qui croit en cette rentrée, pris que nous sommes dans le désir d'être heureux, nous oublions peut-être de penser à prendre des sentiers de traverse, à être attentif à ce qui est différent, qui ne rentre pas dans le cadre, dans celui de nos plannings et plans de vie. N'est pas fou qui croit, ce pourrait être le fil rouge de l'émission de ce matin, un beau fil rouge que celui de nous parler de ces hommes et de ces femmes, que l'on désigne trop vite de fous. Malheur à celui qui traite son frère de fou, nous rappelle d'ailleurs l'évangile, malheur à lui en effet, qui ne voit pas dans ces personnes le miroir déformant de nos misères, et un grand trésor, notre pauvreté. Le grand écran, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. On n'arrête pas les tubes ou les succès de cette émission. Émission qui est bien appréciée, ravi de vous retrouver, messieurs Louis-Marie Soler, producteur de l'émission N'oubliez pas l'ouvreuse. Bonjour.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous.
Et Paul Dima, intervenant cinéma pour les Cotopaïs, centre jésuite dans le sud-ouest. Bonjour Paul.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous également.
Voilà, vous êtes tous les deux donc animateurs de ce Ciné-Parole, pour ceux qui écouteraient cette émission la première fois, qui a lieu tous les mois dans un cinéma toulousain qui s'appelle l'ABC. On regarde un film, vous regardez un film avec les téléspectateurs et à la fin vous leur proposez d'en parler. Ça recommencera au mois d'octobre. Alors aujourd'hui on a choisi donc trois films. Diamant sur canapé de Black Edwards, Vol au-dessus d'un nid de coucou de Milos Forman et Ordette. Oui, Marie, Ordette, c'est de...
Comment on dit ? C'est de...
Carl Theodor Dreyer.
Voilà.
On vous voyez, j'y arrive tout seul.
Merci, c'est gentil. Sur le coup, j'ai eu un trou de mémoire. J'allais dire, je cherchais Carl, difficilement.
Diamant sur canapé, c'est le premier qu'on a choisi. Ce n'est pas le film à l'affiche. Il est sorti en 1962. Mais quelle modernité dans ce film. Ça pourrait presque être un film à l'affiche. On va écouter tout de suite la bande-annonce.
Won't you join me?
Yes, join Audrey Hepburn as you've never seen her before, kicking over the traces and bringing to life Truman Capote's Breakfast at Tiffany's.
I never could do that.
Audrey Hepburn as Holly Golightly, who typifies and glorifies the glamorous playmates of this dizzily spinning world as she and George Peppard breeze through the glitter and shimmer of New York as it has never been captured before.
Alors, on va faire grâce à ceux qui ne parlent pas anglais. Il n'y avait pas de bande-annonce en VF. En tout cas, la musique met dans l'ambiance aussi d'une époque. Louis-Marie Soler, allez, avant de raconter l'histoire, vous allez nous dire ce qu'on voit au début du film. Scène mythique, n'est-ce pas ?
Scène mythique parce que c'est...
Tout est mythique. Le taxi, l'avenue, la femme.
Exactement, et c'est ce qui explique le titre original du film.
Et le magasin.
Et le magasin, évidemment, puisque nous sommes à New York devant Tiffany. Tiffany qui est la bijouterie la plus luxueuse de New York, même dans le monde.
Très tôt le matin.
Et on voit une jeune femme, très belle jeune femme, qui descend d'un taxi, qui a une robe de soirée, et qui prend avec application son petit déjeuner. Devant cette fameuse vitrine, pardon. Et l'absus est peut-être révélateur. Toujours est-il que ça explique ainsi le titre du film qui est original, qui est Breakfast at Tiffany's, en fait, qui était le titre d'une nouvelle de Truman Capote. On a pu entendre dans la bande-annonce qu'on vient d'entendre, qui est Truman Capote, qui était l'auteur de la nouvelle qui a inspiré le film, puisque de cette nouvelle, on a tiré ce film.
Alors, c'est un film qui a connu un certain succès, non ? Succès certain, en tout cas, on va raconter l'histoire. C'est l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Holly. On ne sait pas très bien l'âge qu'elle a, elle doit avoir la trentaine. Elle habite à New York, c'est une femme que certains trouvent un peu fofolle. De fait, elle a un caractère assez excentrique, mais elle n'est pas folle, loin s'en faut. Elle cherche à se marier, elle vit on ne sait pas trop de quoi. En tout cas, peut-être on devine en tout cas qu'elle est habituée des cocktails et que ces messieurs lui glissent des billets parfois pour le charme de sa compagnie. Et cette jeune Holly, donc, qui rêve sa vie, on va dire, est introduite un petit peu dans le gratin new-yorkais et a un nouveau voisin. Ce nouveau voisin, comment vous le présenteriez ? Je me souviens plus de son nom.
Il s'appelle Paul Varjac et c'est un écrivain, mais un écrivain en panne. Hein, il a dû écrire un livre et il n'arrive pas à passer au second. Il n'a pas d'idée. Il a de la chance parce qu'il s'est installé dans un somptueux appartement qui ne lui appartient pas. Et il appartient à une dame, Mrs. Felenson, incarnée par Patricia Neal, qui est plus âgée, mariée, mais pas à lui, et donc il entretient. Vous l'avez dit en présentant le personnage de Holly, on a affaire à deux personnages qui ne sont pas vraiment reluisants quand même, hein, parce que Holly, vous l'avez dit, elle vit des petits billets, on dirait maintenant que c'est une escort girl, c'est exactement ça. Et lui, bon, ben, une forme de gigolo.
Une forme de gigolo, en tout cas. Il a une amante et c'est son amante qui lui paye l'appartement.
Exactement.
Voilà, et qu'il aime autant que sa littérature, voire même plus. On peut dire aussi que Holly est habitué d'aller visiter un truand notoire dans une prison new-yorkaise, qui est un des grands trafiquants de drogue de l'époque, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
Voilà, on ne dira pas la fin. Pour continuer à planter le décor, on va écouter un premier extrait. Holly reçoit pour la première fois son nouveau voisin du dessus dans son appartement.
Viens, va, viens, mon chou. Il n'a pas de nom, le pauvre. Pour l'instant, je n'ai pas le droit de lui en donner un. Tout ce que je pourrais lui attribuer en ce moment serait indigne de lui. Je le baptiserai quand je pourrai vivre dans un endroit élégant où ma personnalité s'épanouira. Je ne sais pas encore où ce sera, mais je sais que ce sera une sorte de Tiffany.
Tiffany ? Vous voulez dire le joaillier ?
C'est ça. C'est fou ce que j'aime, Tiffany. Tenez. Vous savez, il y a des jours où on se met à broyer du noir.
À broyer du noir ? Vous voulez dire quand on a le cafard ?
Non, ça c'est parce qu'on grossit ou bien parce qu'il pleut les journées entières. Là, on est triste, c'est tout. Et broyer du noir, c'est affreux. Tout à coup, on a peur, on ne sait pas pourquoi on a peur. Vous avez déjà éprouvé ça ?
Oui.
Quand ça m'arrive, la seule chose qui me remet d'aplomb, c'est de sauter dans un taxi et de me faire conduire chez Tiffany. Ça me calme les nerfs tout de suite. Si tranquille, si majestueux que l'on sent que rien de grave ne peut vous arriver dans un tel endroit. Moi, si un beau jour je trouvais un appartement qui me fasse le même effet que Tiffany, et je le prendrais, je le meublerais, je donnerais un nom au chat instantanément.
Voilà, extrait, un peu cut, pardon. En tout cas, très parlant. J'ai trouvé une critique, en tout cas, qui me semblait raccord avec ce film. Critique. Criticat, je ne connaissais pas, .com, quand le réalisateur des comédies les plus loufoques de son temps rencontre la comédienne la plus élégante de tous les temps, cela donne un chef-d'œuvre aussi doux qu'un verre de champagne et aussi amer qu'un jour de pluie qui n'en finit pas. C'est un très beau film. Louis-Marie, est-ce qu'on peut dire deux, trois choses de plus sur l'histoire ou est-ce qu'on risque de tout dire sur la suite ?
Non, mais l'histoire, finalement, maintenant, c'est, on dirait que c'est un archétype. Ça s'appelle une comédie romantique, maintenant. Les Américains disent une rom-com. Hein. Et en fait, dont on sait très bien que les deux personnages principaux s'ignorent au début du film, mais on sait pertinemment qu'ils finiront ensemble à la fin. On en est sûr. Mais comment ? Voilà. C'est la façon dont Black Edwards raconte l'histoire qui donne tout le charme à ce film. Il n'a pas vieilli. Il y a juste les scènes où on voit Mickey Rooney. Voilà. Mickey Rooney grimé en japonais. Maintenant, ça n'y serait plus. Mais pour le reste...
En l'occurrence, donc Mickey Rooney, c'est l'acteur.
C'est Mickey Rooney.
C'est le voisin du dessus.
C'est le voisin du dessus chez qui
Holly... fou à force de...
De lui ouvrir la porte parce qu'elle oublie toujours ses clés et il sonne et il sort furieux. Voilà. Et il sort furieux. Mais pour le reste, il y a toujours ce charme, cette élégance. C'était incroyable. On a parlé de la scène du pré-générique, celle où elle descend et qu'elle déjeune, petit déjeune devant Tiffany. Puis il y a aussi le moment où il y a une fête chez elle. Et puis la scène finale est extraordinaire, sous la pluie. Il y a tout est merveilleux. C'est le film qui a fait de Black Edwards le grand réalisateur hollywoodien qu'on connaît et qui a eu maille à partir après avec Hollywood. Mais il s'en est bien sorti, puis il leur a fait bien comprendre que ça pouvait être des imbéciles.
Alors on y reviendra, ça vous nous en dire un mot quand on parlera du réalisateur. J'aimerais qu'on parle un peu plus d'elle, Holly. C'est un personnage en effet au début du film qui peut paraître... voilà, surprenant, voire un peu antipathique, et puis qui de plus en plus est touchant. On a l'impression de tomber un peu amoureux au fur et à mesure du film, en même temps que le voisin du dessus, en découvrant en fait ce que la recherche de fortune de cette femme, elle se cherche un homme riche en fait, cache. Paul Dima.
Oui. Ce qui est magnifique dans ce film, c'est le regard que porte Black Edwards sur ses personnages. Tout est en traitement à la caméra. On dit que c'est un film où le personnage de Holly est mélancolique et à la recherche éperdue d'une réalisation d'elle qui la ferait reconnaître, etc. Mais alors, comme un papillon, elle vole éperdument vers la richesse, la fortune, des personnes qui vont l'entretenir. Et à chaque fois, c'est la déception. Et on découvre progressivement quelque chose de son histoire, de son passé, qui n'est pas d'ailleurs sans rapport avec une partie de l'histoire de l'actrice Audrey Hepburn, qui a connu la guerre, son père qui est parti, etc. Et il y a une quête immense d'être aimé, mais...
D'être sécurisé aussi. Hein.
D'être sécurisé, et pour l'instant, elle, sa sécurité, c'est d'être... admirée pour son charme, pour sa beauté, et d'être entretenue aussi pour ça. Et là, le regard de Blake Edwards se fait très, très critique sur une société urbaine qui vit sur l'apparence, qui vit sur le travestissement, c'est une façon de se travestir,
la mondanité,
la recherche de l'argent... Louis-Marie évoquait tout à l'heure la scène où il y a une fête qui est donnée dans son appartement. C'est une critique glaçante de la superficialité, de l'ivrognerie, enfin non, l'alcoolisme mondain, de la fatuité des relations où n'importe qui drague n'importe qui. C'est les écuries d'Augias, quoi. Voilà.
Alors cette femme au lit, donc elle nous dévoile petit à petit son histoire, on va essayer de ne pas tout dire. On devine qu'il y a... D'ailleurs, il y a des choses qui restent mystérieuses hein, dans l'histoire de cette femme.
Oui.
Mais on comprend petit à petit ce qui se cache derrière ce papillon de nuit. Louis-Marie Soler, comment est-ce que le film a été accueilli à l'époque? On a considéré que c'était un très beau film, voire un chef-d'œuvre.
Ah oui, le film a très bien marché. C'est le film qui a rendu célèbre Blake Edwards. Il avait déjà commencé, hein, c'est pas son premier film. Il avait fait quelques séries télé. Il avait aidé justement à parler de Mickey Rooney. Il avait adapté, en fait, il filmait et écrit le show qu'il faisait à la télé, Mickey Rooney Show. Il avait fait des séries télé et quelques films, dont le fameux Opération Jupon avec Tony Curtis et Cary Grant, excusez du peu à l'époque. Hein, ça se passait dans un sous-marin, c'était assez extraordinaire, c'était dans l'armée. Ça avait pas mal marché, mais alors Diamant sur Canal. L'a propulsé carrément au firmament. Et après ça, il est devenu très célèbre parce qu'il a réalisé La Partie, formidable, et surtout la série des Panthères Roses. Et la musique qu'on entend dans ce film, Diamant sur Canapé, elle est signée Henri Mancini, celui qui a signé la fameuse partition de La Panthère Rose.
Donc c'est un homme qui a reçu un Oscar en 2004 pour l'ensemble de sa carrière. Paul Dima, pourquoi est-ce que c'est un très beau film?
C'est un très beau film parce qu'il est très bien fait, très bien construit, très bien filmé. Et c'est un beau film parce qu'il porte un regard sur des corps qui se donnent en spectacle, mais il va au-delà du spectacle qui est donné pour faire voir la faille qui est derrière. Et c'est très beau parce qu'il y a une vraie tendresse dans le regard de Blake Edwards qui n'occulte pas les parties fantasques et déraisonnables complètement des acteurs, mais sans jugement. Et il nous fait découvrir que derrière la blessure, il y a une quête éperdue d'amour. Et comme le disait aussi tout à l'heure Louis-Marie, on sait que ça va finir par une fin heureuse, mais on voit tous les chemins, toutes les épreuves qu'ils ont à traverser, et l'un et l'autre. Paul qui se fait entretenir par sa décoratrice, enfin qui profite de son appartement, et qui prétend être un écrivain, mais comme elle lui fait remarquer, sa machine à écrire, il n'y a pas de ruban dedans. On est encore à la période des machines à écrire avec ruban. Elle est à la recherche toujours d'un riche parti, et ça n'aboutit jamais, jamais.
Voilà, très beau film, N'est pas fou qui croit. Il y a un des hommes qui l'introduit dans le tout New York, qui dit d'elle, cette femme est folle, elle est folle. Eh bien non, cette femme n'est pas folle. et à nous justement de le découvrir et d'aller au-delà des apparences avec ce beau film Diamant sur canapé donc de Black Edwards. On fait une première pause musicale et puis on va vous retrouver. La pause musicale, Louis-Marie, c'est...
Ben, c'est la fameuse chanson que chante Holly, Audrey Hepburn, sur, vous savez, l'escalier d'incendie typique de New York et des villes américaines, les arrières-cours. Elle s'est mise là parce qu'il fait chaud, elle a pris sa guitare, elle chante, et c'est comme ça que son voisin va la découvrir.
You heartbreaker, wherever you're going, I'm going your way. Two drifters off to see the world. There's such a lot of world to see. The same rainbow's end, waiting round the bend. My huckleberry friend, Moon River and me.
What you doing?
Writing.
Présence. Vivante Église. Emmanuel Pella.
Le grand écran, c'est pour rappel le thème de l'émission de ce matin, émission cinéma. On reprend les bonnes habitudes avec Louis-Marie Soler, producteur de l'émission N'oubliez pas l'ouvreuse. L'émission cinéma, elle, de Radio Présence, mercredi 19h-20h. C'est bien ça, hein?
C'est ça.
À chaque rentrée, je me demande toujours s'ils n'ont pas joué au chamboule-tout avec la grille. Mais
non, c'est immuable. Avant-hier, oui, avant-hier.
Paul Dima, intervenant cinéma pour les Cotopaïs, ces centres jésuites dans le sud-ouest, tous deux animateurs, donc... de ce Ciné-Parole, Ciné-Club, au cinéma L'ABC, qui recommencera au mois d'octobre. Pardon. Deuxième film, Vol au-dessus d'un nid de coucou. Alors là, le premier était un très beau film, vous avez dit aussi un chef-d'œuvre. Là, quel chef-d'œuvre s'il en est, de multiples fois récompensé. Qui ne l'a pas vu, peut-être, hein, ou en tout cas, il faut le voir et le revoir. Vol au-dessus d'un nid de coucou, sorti en 1976, film de Milos Forman. On va tout de suite écouter la bande-annonce.
Il a 38 ans. Il a été interné dans un hôpital psychiatrique. Pour les médecins, il est fou.
Qu'est-ce qui a pu leur faire croire ça?
Ça tient pas debout leur truc, franchement.
Jack Nicholson et Matt Murphy dans le dernier film de Milos Forman.
Croyez-vous en votre fort intérieur que vous soyez mentalement touché?
Loin de là, docteur.
Excusez-moi, miss. Est-ce qu'il vous serait possible de baisser un peu le disque que vous passez pour que nous puissions parler entre nous?
Vous salissez la glace avec vos doigts.
Seigneur, vous croyez donc qu'elle suit tous vos va-et-vient?
Il a enfreint tous les règlements.
Pas qu'à changer, ça évite l'ennui. Ça met de la fantaisie.
Il défie les autorités.
Ah, c'est pas vrai, vous n'allez pas me faire ce coup-là. Vous n'allez pas me faire ce coup-là. Ne nous faites pas chier avec ça, quoi. Franchement, on a voté, le chef a voté, on était à 10 contre 9. Alors vous allez nous la brancher, cette télé, et tout de suite.
Je ne crois pas qu'il soit psychotique au sens strict.
Non, cette chance.
Il serait dangereux.
Il défie l'ordre établi.
Nom de Dieu, à vous entendre, vous en avez marre. Tout le monde rouspète. Vous dites tous assez de cette boîte et tout, et vous n'avez pas le courage de foutre le camp. Mais c'est pas vrai, ça. Mais qu'est-ce que vous imaginez? Vous êtes dingue ou quoi? Eh bien, non. Et qu'est-ce que c'est que ça?
Vous voyez comme c'est facile?
Il s'imposa à un groupe d'hommes brimés, bridés, brisée et leur redonna le goût de vivre.
Des membres de l'Institut psychiatrique, hein? Voici le docteur Cheswick, docteur Tabor, docteur Scanlon, je suis le docteur McMurphy. Attendez voir! Très bien, ouais, amène-le vers toi! C'est ça, tu l'amènes! Voilà, c'est ça!
Et le goût de rire.
Ça vous la coupe, hein? Tant de demeurer de cingler, de minus à basse, hein? Un roi pour Murphy!
Il leur rendit ce qu'ils avaient oublié, leur dignité.
Merci, Mac. Merci. Je t'oublierai jamais.
Jack Nicholson incarne Mac Murphy. Lui est fou. Alors, que dire de nous?
Voilà, bande-annonce, donc, de vol au-dessus d'un nid de coucou, 1976.
Dire une chose sur les bandes-annonces, on a entendu la même pour Diamant sur canapé. Maintenant, on ne fait plus ça, il n'y a plus de voix off qui essaye de vendre le film. Fini.
Oh, ça avait son charme quand même. Hein.
Ah, oui, c'est vrai, c'est vrai. Ça nous faisait aller au cinéma, en tout cas.
Alors, César du meilleur film étranger, 1977. Oscar 1976.
Les 5 plus prestigieux.
Les 5 plus prestigieux. Oscar du meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur acteur. Pour, donc, le meilleur acteur, c'était Jack Nicholson. Meilleure actrice, Louise Fletcher. Et Oscar du meilleur scénario adapté. Alors, l'histoire, je vais commencer à présenter. Je vais présenter les personnages et puis je vais vous laisser nous faire après le fil. Mac Murphy, c'est celui qui, soi-disant, est fou, mais qui s'est laissé enfermer, en fait, pour éviter la police.
La prison, pardon.
Miss Ratched, c'est donc cette... on va apprendre à la découvrir. C'est cette, cette infirmière en chef autoritaire et cynique qui a des manières, on va dire, peu reluisantes. Il faut présenter le chef aussi, le colosse amérindien. Qu'est-ce que vous diriez des autres personnages, Louis-Marie?
Bah, ce sont les patients d'un hôpital psychiatrique. On disait un asile, hein, à l'époque, avec les problèmes qu'ils rencontrent. Ils ont tous des pathologies. Il y en a un qui est là de son plein gré. Un. D'ailleurs, il en prend plein la tête. Mac Murphy ne se prive pas de lui en mettre plein la tête. Après, tous les autres sont là parce qu'on les a fait enfermer.
Alors, l'histoire, c'est donc l'histoire de Mac Murphy, enfermé volontaire, qui se retrouve petit à petit pris au piège, en fait, de ce qu'il a fait, mais qui met un sacré bazar dans cet hôpital psychiatrique.
Ah ben oui, il est le grain de sable qui fait gripper la mécanique. C'est-à-dire que, oui, comme il n'est pas complètement fou, il sait comment résister aux soins et à la façon dont on procédait pour censé venir en aide à ces gens qui étaient hospitalisés. Il faut dire que la façon dont qu'on opérait cette aide était plutôt violente, c'est le moins qu'on puisse dire.
Vous voulez ajouter quelque chose, Paul?
Il y avait la camisole chimique des médicaments ou les électrochocs.
Ou la camisole, carrément. La vraie camisole. Et même plus avant, la fameuse lobotomie.
La lobotomie, oui.
On va écouter un extrait, ça parle de cigarettes, mais ça va nous aider à faire connaissance avec les différents acteurs. Mac Murphy, donc, Miss Ratched, cette infirmière en chef, et c'est une histoire de cigarettes.
Monsieur Scanlon?
Je veux savoir pourquoi le dortoir est verrouillé dans la journée et pendant les week-ends.
Oui. Moi, je voudrais que l'on nous parle de nos cigarettes. Puis-je avoir mes cigarettes, je vous prie, Miss Ratched?
Asseyez-vous, Monsieur Cheswick, et attendez votre tour. Allons, assis. Pour en revenir à la question que vous avez soulevée, Monsieur Scanlon, vous savez fort bien que si nous laissions le dortoir ouvert, vous vous recoucheriez aussitôt après le petit déjeuner. Est-ce que je me trompe?
Et après?
Puis-je avoir mes cigarettes, je vous prie, Miss Ratched?
Laisse donc tes cigarettes, Cheswick. Les cigarettes, ça n'a pas d'importance. Assieds-toi, quoi.
Oh, putain de Dieu. Les cigarettes.
Rappelez-vous, Monsieur Scanlon, nous l'avons dit à maintes reprises, le temps passé en compagnie d'autrui à valeur thérapeutique. Alors que le temps passé à ruminer seul ne peut qu'accroître le sentiment d'être séparé des autres. Vous n'avez pas oublié, n'est-ce pas?
Alors vous voulez dire qu'il est anormal d'avoir envie d'être seul?
Miss Ratched!
Monsieur Cheswick, asseyez-vous tout de suite!
Oui, mais je voudrais savoir...
Asseyez-vous, Monsieur Cheswick.
Je voudrais...
Donne-lui donc ta cigarette, la raide.
J'en ai plus.
Tu mens, ordure. File-lui une cigarette.
Écoutez, je ne suis pas l'armée du salut. Rendez-moi ça.
Je ne veux pas ces cigarettes. Je ne veux pas les siennes, ou 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 les siennes,
allez,
ou les siennes. Ou même les tiennes.
Ouais.
Tu comprends ça?
Non, rendez-la-moi.
Je veux mes cigarettes, Miss Ratchet. Je veux mes cigarettes.
Ah, c'est drôle.
Je veux les miennes, Miss Ratchet. Et d'abord, de quel droit à la con vous gardez nos cigarettes bien en évidence sur votre comptoir et vous nous enfilez un paquet seulement quand ça vous chante, hein? Miss Monsieur... Ratchet!
Monsieur Larède.
Oh. Oh. Je suis désolé.
Vous m'étonnez.
Navré, j'ai dû perdre la tête, excusez-moi. J'ai pas l'intention. Je suis sincèrement désolé. J'ai oublié, je ne voulais pas. Je suis vraiment confus, j'ai oublié.
Ce n'est rien.
Miss Ratchet!
Oui, Monsieur Cheswick?
Je crois vous avoir posé une question.
J'ai entendu votre question, Monsieur Cheswick. Et je répondrai à votre question dès que vous serez redevenu calme.
D'accord.
Vous êtes calme, Monsieur Cheswick?
Voilà les face-à-face de ce lieu terrible. Louis-Marie Seller, est-ce qu'on rajoute quelques éléments sur l'histoire, sur ce qui s'y passe, sur la manière dont le film évolue?
Bah, le film va évoluer en fonction de la relation qui va s'établir entre McMurphy et Ratched. C'est incontestablement un affrontement que les autres auxquels les autres vont assister. Ça va être les spectateurs et eux, ils vont assister à quelque chose qu'ils ne connaissaient pas. Là, le coup des cigarettes en est un exemple. Parce que jusqu'à présent, ils disaient rien. C'est censé être un groupe de parole, là où ils sont. C'est censé être un groupe de parole. Hein. Vous imaginez la scène, ils sont en rond avec Miss Ratchet, qui en fait préside. Hein. Parce qu'il faut penser qu'ils sont tous en blanc, ils ont un uniforme blanc, y compris les infirmiers, mais pas Miss Ratchet. Miss Ratchet, elle est en blanc, bien sûr, mais par-dessus ce blanc, elle a une cape noire. Elle est noire, alors que tous les autres sont blancs. Et en fait, tout va se jouer entre eux. En fait, McMurphy... il se met en scène. C'est un acteur. Il veut échapper à la prison. Et puis, au bout d'un moment, il va être pris à son propre piège parce qu'il va se rendre compte de ce qui se passe et finalement, il ne va pas vouloir lâcher le morceau. Il suffirait qu'il lâche le morceau et tout se passerait comme ça se passait habituellement dans cet endroit.
Paul Dima, qu'est-ce que vous rajouteriez avant de dire pourquoi c'est un beau film? Qu'est-ce qui vous a touché dans ce film?
Alors, c'est le rapport de force et de pouvoir. On voit l'infirmière en chef qui, avec une voix faussement douce, sauf un moment, elle dérape un petit peu, a une main de fer dans un gant de velours. C'est-à-dire qu'elle maîtrise non seulement le groupe, mais chacun des malades. Et on voit, c'est censé être une thérapie de groupe, on voit comment ces interventions... annihile la prise de parole des uns et des autres et les maintient complètement sous son pouvoir autoritaire. Et ce film devient une dénonciation de l'absurdité du système et du pouvoir en place. Alors peut-être qu'on en reparlera après. C'est le microcosme dans lequel on peut lire une dimension politique, mais peut-être on en parlera plus tard.
Non, vous pouvez, allez-y.
Alors, c'est lié aussi... à l'histoire de Miloš Forman. C'est en 75.
Donc le réalisateur, oui.
Le réalisateur, oui. Il vient de quitter les pays de l'Est, enfin, quelques années auparavant.
Il était à Prague.
Il était à Prague. Et on voit que la tentative de rébellion s'est fait complètement mater et que ceux qui ont voulu être les leaders pour la libération...
Ils sont sortis en 1976.
Oui, c'est ça, se sont fait écraser complètement. Et il va reproduire d'une certaine façon dans cet espace-là quelque chose de cet affrontement contre un pouvoir implacable et imbécile qui ne fait, sous prétexte d'ordre, que d'écraser ceux qui l'opprime. Et jusqu'à les annihiler, on parlait tout à l'heure de lobotomisation. Et ça, pour McMurphy, c'est insupportable. Il ne peut pas ne pas agir.
Et en fait, pour compléter ce que disait Paul, Prague, le printemps de Prague qui a été écrasé par les voisins sympas, hein, exactement. Le personnage, en fait, de McMurphy, c'est pas Miloš Forman. Miloš Forman ne se reconnaît pas dans le personnage de McMurphy. Le personnage de Miloš Forman, c'est plutôt le chef indien.
Oui, c'est le chef indien.
C'est le chef indien qui n'est pas fou, mais qui se tait, qui se terre dans le mutisme. Il est là, il fait rien, il attend. Et il lui faut un catalyseur, et le catalyseur, finalement, ça va être McMurphy. Mais s'il n'y avait pas McMurphy, il serait resté comme ça. Il accepte, le chef indien, il ne fait rien, il ne faut surtout pas l'ennuyer.
Pas de, oui, c'est ça. Et puis, du coup, pas de vague. Bref, il y a une forme de soumission.
Oui, et en même temps, de résistance, c'est-à-dire
c'est
que...
C'est une résistance passive.
Voilà.
On va écouter un autre extrait parce que ce McMurphy, il met une sacrée ambiance dans cet asile, dans cet hôpital psychiatrique. On va écouter cet extrait et puis vous allez nous en parler, Louis-Marie Solaire.
Koufax ?
Où est mon épaule ? Donne-moi mon...
Koufax tape, il serre une belle balle. En milieu de terrain, il touche une buse. Richardson est là le premier, il va en seconde base. La balle est toujours au centre. Davis, son angle de base, se rabat et intercepte. Charge sur Davis, Richardson au sol, fonce en seconde, il glisse, se relève, ça réseau. C'est un doublé, il revient. Martini regarde Richardson. En seconde base, Koufax s'empête, panique méchamment. Pagaille complètement le pauvre, ça repart. C'est Tresh qui a la batte. Tresh regarde Koufax. Koufax reçoit un signe de la part de Roseboro, il va frapper, il ajuste et tire. Un coup superbe. La balle de Koufax part en trajectoire incurvée comme une vraie fusée. Et c'est tout de suite derrière un nouveau tir.
Oui, Marie, qu'est-ce qui se passe là ?
Alors, il y a en plus des groupes de parole, il y a ces moments de réunion où ils décident de ce qu'ils peuvent faire et ils choisissent de ce qu'ils ont envie de faire. Et il faut, pour que, qu'une activité soit accordée, il faut qu'il y ait la majorité, pratiquement tous votent pour cette activité. En l'occurrence, là, c'est le fait de regarder à la télé un match de baseball. Et comme il dépasse le temps, et que le chef indien n'est pas là à temps, et qu'il fait celui qui ne comprend pas, donc Ratched refuse d'allumer la télé. Et donc, résigné, après s'être rebellé, mais résigné, tous les patients hospitalisés s'en vont, et McMurphy reste dans la salle de télévision. Il regarde l'écran éteint et il se met à commenter le match de baseball comme s'il le voyait sur l'écran.
Il invente
le match, c'est ce qu'on entend. Et à ce moment-là, tous les autres, petit à petit, reviennent, s'assoient et se tournent, non pas vers McMurphy, mais vers la télé. Ils regardent la télé et lui continue à commenter.
Voilà, McMurphy qui va faire d'autres choses et puis ça va finir par devenir très grave, ou en tout cas entraîner des conséquences dramatiques, mais ça c'est plus la fin du film, on ne va pas raconter. Allez, pourquoi est-ce que c'est un chef-d'œuvre qu'il a été autant primé, Louis-Marie Solaire ?
Bah, c'est la façon dont Miloš Forman traite le sujet. C'était un sujet célèbre. On parlait de la nouvelle de Truman Capote pour Diamant sur canapé. Là aussi, c'est un roman au départ, signé Ken Kesey en 62, qui a été aussi adapté au théâtre d'abord, et puis qui est devenu un film. Et c'est le premier film de Miloš Forman aux États-Unis. Un Européen qui vient aux États-Unis, c'était pas le premier, et ça sera pas le dernier. Mais il faut s'imprégner à la fois de ce qu'on attend du réalisateur, de ce qu'attendent les spectateurs américains, de ce qu'attend Hollywood, au sens large du terme. Et Miloš Forman a su tirer parti de tout ça et puis faire de cette histoire quelque chose qui est intemporel. Ça continue et ça fonctionnera toujours. Tout passera toujours de la même façon. Alors évidemment, comme pour Diamant sur canapé, et pour ce film-là, voyez ces films dans leur version originale. C'est vrai, il faut lire les sous-titres, mais il faut entendre leur voix. Il faut supporter justement d'entendre, peut-être d'échapper à quelques dialogues, mais pour voir le jeu de Nicholson qui est complètement habité par le personnage. Il est extraordinaire. Il faut penser que dans sa carrière, juste avant... On l'avait vu, il avait attiré l'attention dans le film Easy Rider où il avait un second rôle. Il finissait vite d'ailleurs son passage dans le film puisqu'il mourait. Et après ça, il fera Shining, où il sera extraordinaire, le film de Stanley Kubrick. Et là, On connaît, c'est un personnage hors norme, Nicholson, et là, il est à la mesure de ce que voulait faire Miloš Forman.
Paul Dima, pourquoi est-ce que c'est un chef-d'œuvre, à votre avis, à vous ?
Parce qu'il montre aussi l'ambiguïté de l'entreprise, de ce libérateur qui est en même temps manipulateur. C'est-à-dire qu'il s'oppose violemment à la toute-puissance de l'infirmière en chef, mais il veut gagner la partie, pour lui aussi. Ça ne va pas très bien se terminer pour lui, je ne dis pas plus.
Et pour d'autres ?
Et pour d'autres, eh bien, il n'est pas si libérateur que ça. C'est-à-dire qu'il les entraîne dans ce mouvement de révolte. Et il y en a un, il y a un jeune Billy qui est sous la coupe et de sa mère et de l'infirmière-chef qui est de connivence avec la mère pour le réduire à l'état de bébé balbutiant, voilà. Bon, au cours d'une fête, il lui permet de se libérer et après l'infirmière-chef reprend le pouvoir sur lui et le remet dans sa folie, enfin dans son incapacité à exister. Et ça, Miloš Forman ne supporte pas, McMurphy ne supporte pas ça. Mais en même temps, et Louis-Marie le disait fort justement tout à l'heure, le film aussi joue sur l'attente du public. Et quelque part, peut-être que là, le réalisateur... Miloš Forman dénonce aussi la façon de séduire que peut avoir le film et d'entraîner. Et il pose la question, mais est-ce que c'est une vraie libération ou pas ?
Je voulais juste ajouter quelque chose, un détail. Mais l'American Film Institute a classé les 100 plus grands méchants de tous les temps du cinéma américain. Et savez-vous à quelle place se trouve Mildred Ratched ? Eh bien, elle est cinquième. Ouais. Elle est cinquième après, dans l'ordre, Hannibal Lecter, vous voyez, Le silence des agneaux, Norman Bates, de Psychose, Dark Vador, de ouais. Star Wars, et la méchante sorcière de l'Ouest, dans Le Magicien d'Oz. Elle est en cinquième position.
Voilà, et hélas, les situations des hôpitaux psychiatriques... certes évolue, mais probablement pas assez rapidement. Voilà aussi d'un nid de coucou de Miloš Forman, et puis on écoute un extrait de la musique de ce film en deuxième pause musicale, et on vous retrouve pour parler d'Ordette de Carl Theodor Dreyer.
Emmanuel Pella.
Le grand écran, c'est pour rappel donc le thème de l'émission de ce matin, mission cinéma. Autour du plateau, Louis-Marie Solaire, producteur de l'émission N'oubliez pas l'ouvreuse, émission cinéma de cette antenne, et Paul Dima, intervenant cinéma pour les Cotopaïs, ces centres jésuites dans le sud-ouest. Troisième film, donc, Ordette, c'est notre chef-d'œuvre spirituel, donc de Carl Theodor Dreyer. Comme d'habitude, on va écouter la bande-annonce. Elle ne va pas durer longtemps, puisque c'est un film suédois. Voilà.
« willkommen, Schipper und Schipper.
Tack, mange tack.
God dag. Tak, tak. Og velkommen til.
Tak, tak. Det er varmt. Det er lille Inger.
Ja. Har de flere end de to?
Ikke endnu da, men vi får.
Jeg har så ondt af din far.
Jeg har ondt af Johannes.
Det har jeg også. Men...
Men hvad?
Johannes...
Bon alors, l'anglais, tous les Français sont pas doués, mais alors là, en l'occurrence, en plus, vous me disiez que c'était du danois, c'est encore pire. Ça nous met un tout petit peu dans l'ambiance. Il faut dire que bon, c'est un film aussi avec beaucoup de dialogues, voilà, on s'en est rendu compte. Ça se passe au sein d'une famille luthérienne dans la province du Jutland, au Danemark. Knut Borg est un patriarche qui règne en maître incontesté, et puis l'un de ses fils, Johannes, devrait devenir pasteur, mais lors d'un accident d'automobile, sa fiancée est mortellement atteinte et il va sombrer après dans la folie. Alors c'est une folie particulière, une sorte de folie mystique. Et puis petit à petit, au fur et à mesure de ce film, je ne sais pas si vous le dévoilerez, on découvre que cet homme, en fait, cet homme a une place singulière et qu'il se passe de grandes choses grâce à lui. Qu'est-ce que vous rajouteriez pour raconter l'histoire l'un ou l'autre ?
On peut dire qu'il s'identifie à Jésus-Christ.
Ah oui, tout à fait.
Tout simplement.
Il cite les paroles du Christ.
Oui, oui.
Que personne ne comprend.
Oui, il est le seul à les comprendre. Oui. Et il y a une scène formidable, mais on y arrivera peut-être plus tard dans notre commentaire. Mais en tout cas, oui.
L'histoire et l'ambiance, peut-être.
Ah, bah, c'est on ne peut plus.
Étouffant.
C'est étouffant, sombre, c'est, j'allais dire triste, non, c'est pas triste, c'est austère, voilà. c'est tout à fait austère, il y a cet homme avec, qui a trois fils, donc vous l'avez dit, il y a Mickaël qui a épousé Inger, et avec Inger il a deux petites filles, Johannes qui donc se prend pour Jésus-Christ, et puis, il y a le troisième, Anders. Et Anders, il est fou amoureux d'Anne Schrader. Et c'est là où va naître le problème et la difficulté. C'est que c'est la fille
d'un tailleur.
Qu'est-ce qu'il est ? Prêcheur, il est à la tête d'une secte. On peut dire.
Chrétienne, il dirige les prières de cette secte.
Voilà. Et il refuse totalement que les deux s'unissent parce qu'ils n'ont pas la même conception de la religion. Que sa fille se marie avec le plus jeune fils de Borgen.
Alors d'abord, c'est le père Borgen
au début,
qui refuse. Interdit à son fils d'aller demander, d'aller voir Jeanne, qu'il aime, parce qu'il y a incompatibilité de religion. Et puis, le père de Jeanne lui refuse la main de sa fille. Il vient le dire à son père, et le père dit à ce moment-là, quoi ? Il refuse la main, et donc c'est la querelle entre les deux, c'est insupportable pour lui.
Alors, est-ce qu'on peut dire un mot du réalisateur aussi, Carl Theodor Dreyer, Louis-Marie Soler ? Alors, on peut dire aussi que c'est un film qui a connu un certain succès, hein ?
Oui,
ah, Lion d'argent.
Oui, oui, et un film sorti en 1955.
Lion d'argent ou Lion d'or ? Venise, bref, en tout cas primé.
Lion d'or.
1943, j'ai vu.
Ouais. Ouais. Ah non, c'est 55.
Ah bon, d'accord, ok, autant pour moi. Oui, Carl Theodor Dreyer, Louis-Marie Soler.
Ah ben, il a toujours été fasciné et préoccupé, une façon de parler, de la religion et du Christ en particulier. Il a toujours voulu tourner une vie de Jésus, et c'est quand il a vu Ordette qui s'est dit qu'il pouvait, en adaptant cette pièce de théâtre au cinéma, il pourrait continuer et à pousser plus loin la réflexion qui est au cœur de son œuvre, parce qu'il faut penser qu'il avait réalisé avant La Passion de Jeanne d'Arc, et donc il a toujours réfléchi à la possibilité de la sainteté dans un univers dominé par les tièdes. C'est ça, les tièdes, mais pas seulement, il y a les fanatiques, les sceptiques. Et donc finalement, Johannes, le fils qui est fou, qui se prend pour Jésus-Christ, il est un peu comme Jeanne d'Arc. Il est d'abord en butte aux brimades des gens qui le prennent pour un fou, un imbécile, il ne comprend rien. Et puis, parce qu'il est resté fidèle à la valeur spirituelle, c'est ça, du message de l'évangile, c'est ça. Le cinéma de Dreyer...
Contrairement aux communautés dans lesquelles il est,
voilà.
De certaine manière.
Et le cinéma de Dreyer est traversé par cette réflexion-là. tout le cinéma de Dreyer, je ne suis pas un spécialiste, mais repose un peu, en tout cas, beaucoup là-dessus.
Alors, c'est aussi l'adaptation d'une pièce de théâtre, décidément, écrite par un certain Cage Munk, voilà, en 1925. Sur Dreyer, vous rajouteriez des choses, Paul Dimain ?
Non, c'est vrai, hein, c'est ce qui traverse l'œuvre de Dreyer. Et il est un peu un des rares cinéastes à pousser assez loin la possibilité de dire quelque chose du rapport de Dieu à l'homme, ou au moins les questions, et de l'homme à Dieu, avec une possibilité de croire que le miracle existe aujourd'hui. Voilà, aussi surprenant cela soit-il. Et dans la trame de ce film-là, Johannes est en butte avec des chrétiens qui ne sont pas croyants. Même le pasteur ne croit pas que ce soit possible que Dieu fasse quelque chose. Pour lui, oui.
Et la
et
grâce,
pas que pour lui seul.
Et la grâce passe aussi justement par l'apparente folie. Ça, c'est peut-être aussi le cœur du film.
Voilà celui que Dieu choisit, en quelque sorte.
Voilà. Est-ce qu'on peut raconter ou... Allez, on le dit.
On peut le dire, puisque la femme du fils aîné, Inger, est enceinte. Et au moment où elle accouche d'un enfant mort-né. Oui,
un garçon.
Un garçon. Il avait deux filles. Ils avaient deux filles, un garçon mort-né. Et elle ne survit pas à l'accouchement, qui est trop difficile. Et elle meurt également. Alors évidemment, la famille est touchée irrémédiablement par la douleur de la disparition de cette femme et le
Johannes.
Fou Johannes, eh bien Jésus-Christ va faire un miracle. Voilà, faire un miracle, il va ressusciter Inger, pas le petit mais Inger. Et c'est sans doute au cinéma la plus fameuse scène de miracle de l'histoire du cinéma.
Oui, elle est très belle. Elle est très très belle, très très épurée. Et il peut le faire parce que la plus jeune fille, Meren, sa nièce, lui a confiance en lui. Elle a une foi d'enfant que Johannes peut invoquer Dieu pour que, ou Jésus-Christ, pour qu'il cite la parole « Lève-toi ». Elle le tient par la main et elle dit, elle a le sourire avant que ça soit réalisé. C'est magnifique. Et cette foi-là ressuscite, remet debout.
Je peux vous donner les dialogues. C'est ce que dit Johannes. Pas un seul d'entre vous n'a eu la pensée de demander à Dieu de vous rendre Inger. Non, c'est vous qui le blasphémez par votre tiédeur. Pourquoi n'y a-t-il parmi les croyants personne qui croit ? Inger, tu dois pourrir parce que les temps sont pourris. L'enfant, ce qu'il y a de plus grand au royaume des cieux. Il se tourne donc vers sa jeune nièce et il lui dit « Crois-tu que je saurais le faire ?» Et l'enfant lui répond « Oui, mon oncle. » Et là, il dit « Ta foi est grande, qu'il soit fait comme tu le veux. Regarde ta mère, quand je prononcerai le nom de Jésus, elle se lèvera. »
Louis-Marie Soler, Paul Dima, pourquoi est-ce que c'est un très beau film et un chef-d'œuvre spirituel ? On le devine évidemment, mais est-ce que vous voudriez rajouter quelque chose ?
Parce que ça transpire du début à la fin ce questionnement. Quel est le rapport de l'humanité à Dieu, des croyants, un peu incroyants, à leur Dieu ? Il y a une rivalité entre les deux patriarches. Cette rivalité, elle est sur une différence radicale de conception du christianisme. Bergen dit « Pour vous, le christianisme n'est qu'affliction et châtiment. » Et de fait, quand on voit la façon dont ils vivent, il n'y a rien d'autorisé, on n'est que péché, et que, voilà, on ne peut qu'implorer d'éviter la damnation. Et il dit « Pour moi, il est l'épanouissement de la vie. » Alors, c'est vrai que quand on le voit, on voit que l'épanouissement n'est pas exubérant. Hein. Enfin, c'est le moins qu'on puisse dire.
Là, c'est le père, hein. C'est le père de Yann.
Ça, c'est le père, Borgen, le patriarche de la famille. Mais il a quand même une croyance quand il apprend la mort de sa fille, donc après l'accouchement. Il dit « Dieu a donné, Dieu a repris, loué soit l'Éternel ». Donc, il reste dans une certaine espérance quelque part. Et il n'est pas fermé, lui, mais en même temps, le reproche de son fils fou, c'est comment se fait-il que personne n'ait osé demander à Dieu, et là vous blasphémez, parce que vous l'empêchez de mettre en œuvre sa puissance de résurrection, sa puissance de vie.
Marie Soler, c'est le mot de la fin ou...
Oui, simplement, je voulais dire, c'est ce qui fait que c'est un grand film, c'est le dénouement inoubliable. Ça, quand on voit un film comme ça, ce film-là, après, on a cette scène dans la tête, elle restera à jamais gravée dans la tête. Et puis, c'est la maîtrise de Dreyer, cette abstraction de la mise en scène, alors qu'il peut paraître un peu compliqué, difficile, un cinéma qui n'est pas évident, il faut faire un effort, mais il impose aux comédiens une diction lente, c'est doux, la façon dont il parle, c'est lent, doux. Il choisit un demi-jour, c'est toujours gris quand on les voit, de longs plans séquences qui cernent les personnages, voilà. Et petit à petit, le décor... cette façon de tourner déleste le décor de son poids historique, qui fait que c'est les personnages qui sont forts.
Eh ben merci messieurs, et puis le mois prochain c'est promis, j'en aurai vu au moins 2 sur 3, comme ça je serai participerai plus au match, à condition qu'on m'envoie les films à temps, n'est-ce pas? Diamant sur canapé de Black Edwards, Vol au-dessus d'un nid de coucou de Milos Forman et Ordette de Carl Theodor Dreyer. Un grand merci à vous et rendez-vous est donné au mois d'octobre. Cette émission est réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi.